France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Francis le Belge, le dernier caïd. Le 27 septembre 2000, dans un PMU proche des Champs-Élysées, Francis Van der Berg, dit le Belge, est abattu. L'homme de 54 ans est une figure criminelle, fichée au grand banditisme en 1968 à l'âge de 22 ans seulement. Il a d'abord été un beau gosse du quartier de la Belle de Mai à Marseille, où son 1m90, ses épaules larges et sa belle gueule ont mené au proxénétisme et au premier braquage. Puis il a été un beau mec, comme disent les policiers, pour évoquer un truand d'importance, trafiquant d'héroïne de la French Connection, propriétaire de boîtes de nuit extorquées à d'autres, commanditaire supposé de dizaines d'exécutions. Enfin, il a été un vieux beau du crime, un malfrat qui a passé la moitié de sa vie d'adulte en prison, avant de mettre un peu de distance entre lui et le grand banditisme, et puis, d'être assassiné, les caïds meurent rarement dans leur lit. Raconter Francis le Belge, c'est aussi observer la mutation du milieu de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. C'est passer d'une génération qui faisait du trafic d'héroïne à destination des États-Unis à une autre qui fait rentrer, elle, des tonnes de cannabis pour alimenter le marché français. Notre invité aujourd'hui, Hervé Lafranque, ancien patron de la brigade anti-gang de Marseille et ancien directeur de l'Office central pour la répression du banditisme, le célèbre CRB. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire et rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Marseille, 31 mars 1973. C'est un samedi comme les autres sur le Vieux-Port. Il fait beau tout l'après-midi et l'air commence à peine à se rafraîchir en ce début de soirée. De la terrasse du bar, le Tanagra, on aperçoit la mairie, là, 200 mètres sur la droite, devant l'embarcadère des ferries pour le château d'If ou l'Estac, et plus haut, de l'autre côté du bassin, la Bonne Mère, la basilique Notre-Dame de la Garde. Un samedi comme un autre, donc. Il est presque 19h ce soir-là. Une 404 blanche se gare à quelques mètres de la façade vitrée du Tanagra. Trois hommes en sortent et le temps se fige, comme le raconte le correspondant marseillais du journal télévisé.
18h45, trois hommes garent leur voiture blanche à quelques mètres du bar Le Tanagra. Quelques secondes plus tard, les trois tueurs parvenus à hauteur de la terrasse sortent tranquillement leurs armes, un pistolet mitrailleur et deux revolvers, et ouvrent immédiatement le feu. À l'intérieur, 6 personnes, 4 consommateurs et 2 serveurs. Les tueurs n'ont pas le temps de choisir leur cible, bilan 4 morts, 2 blessés. Décor traditionnel, vitres brisées, impact de balles sur les murs, douille et même chargeur au sol, lorsque les policiers arrivent sur les lieux, le spectacle est éprouvant. Les tueurs ont disparu tranquillement, ils ont regagné à bord de la voiture le centre de Marseille.
Parmi les victimes, 2 hommes retiennent l'attention des policiers arrivés de l'Évêché, le commissariat central de Marseille, situé à moins de 5 minutes du Tanagra. D'abord, Joseph Lomini, 34 ans, dit Joe le Toréador. Rescapé d'une précédente fusillade quelques mois plus tôt, il n'a pas eu le temps de sortir le Colt 45 qu'il porte en toutes circonstances. Le second, c'est Albert Bistoni, 62 ans, dit Lagacan. Quant aux 2 autres victimes, elles sont en quelque sorte, et pour les enquêteurs, des dommages, disons, collatéraux. L'une est la barmaid de l'établissement, l'autre un jeune truand de 25 ans. Lagacan, lui, se disait retirer des voitures, après avoir fait du trafic d'héroïne à un classique de la truanderie marseillaise en ces temps de French Connection. Le toréador, c'est encore autre chose. Il était le lieutenant de Tani, son vrai nom, Gaetano Zampa, 40 ans, le parrain de Marseille. Et chez les voyous, on sait qui a tué ou donné l'ordre de tuer. C'est un jeune homme de 27 ans, Francis Van der Berg, que depuis son adolescence, on appelle Francis le Belge, surnom qui s'affiche en titre du livre écrit par sa sœur, Simone Van der Berg, autrice de l'ouvrage « Francis le Belge, mon frère, ce voyou ». Elle s'exprime ici sur le plateau télé de « Ça commence aujourd'hui » en mars 2020.
Mon frère était très ambitieux, mon frère était un joueur de foot, hors pair déjà. Il était déjà reconnu à ce moment-là, à 16 ans. Il faisait la une d'un journal qui s'appelait L'Équipe. Il faisait la première page, il avait mis un but à 18 mètres de la lucarne. Donc mon frère, il voulait être professionnel. D'ailleurs, il avait l'étoffe pour être un pro. Malheureusement, à 17 ans et demi, il a eu un accident et il s'est pété le genou, les ligaments croisés, enfin la totale. Et là, sa vie, elle a complètement basculé. Parce que j'avais un cousin qui était voyou, mon frère fréquentait des voyous.
Et voilà quoi.
Et donc, quand il venait le voir à la maison, c'était un balai incessant de proxos, de prostituées. Vous savez, quand vous êtes né à la Belle de Mai, je pense que c'était valable pour les filles comme pour les garçons.
Ouais, je comprends.
En moyenne, dans une famille très aisée. Mais moi, toutes les personnes que j'ai connues à Marseille, qui étaient dans des quartiers les plus démunis comme moi, ils ont été ou putes ou voyous.
Dans ce livre, dont Libération détourne le titre avec la formule « La frangine carabinée », la sœur de Francis y rassemble ses souvenirs, réels pour la plupart, enjolivés pour d'autres. Mais son frère, effectivement, a bien été un jeune footballeur prometteur, mais il n'a jamais fait la une de l'équipe pour autant. Et ce qu'elle dit sur la Belle de Mai est juste. C'est à l'époque un quartier où le chemin des filles et des garçons mène rarement au concours d'entrée de l'ENA. Francis ne fréquentera que deux écoles, la communale et la prison. Et à la communale, ce n'est pas par ses résultats qu'il se distingue, écrit Bruno Aubry dans Les Parrains du siècle, mais par sa capacité à convaincre les autres de faire ses devoirs à sa place. Autour de Francis, il y a le père, François, un menuisier venu des Flandres, joueur et alcoolique, éphémère patron d'un bar dont il était aussi le meilleur client. Quant à la mère, Herminia, pied noir espagnol, elle a mis au monde quatre enfants, Francis est le deuxième. Autour des Vanverberg, il y a la Belle de Mai, un quartier de misère et de soleil, et autour encore, il y a Marseille. En 1946, quand naît Francis, la ville vient de changer d'époque mafieuse. La guerre est finie, tout comme les parrains des années 30, Carbone et Spirito. Comme beaucoup de truands, ces deux-là ont parié sur la collaboration, ils ont perdu. Alors, les cartes du Marseille criminel sont redistribuées. Les frères Guérini, résistants, eux, prennent leur place. Ils récupèrent le jeu, la prostitution, la contrebande et surtout le contrôle du port de Marseille. C'est un carré d'as. Le port, c'est la French Connection. On y décharge la morphine base d'Extrême-Orient, puis on la transforme en héroïne dans des labos marseillais, avant d'être envoyée aux États-Unis par mer, bien sûr, Marseille est un port. Les Guérini, eux, ont un atout à peine caché. La mairie, où Gaston Defferre est élu en 1953. Or, cet homme politique majeur est le fondateur du réseau de résistance Brutus, celui où Mémé et Antoine Guérini émargeaient. Un vrai jackpot pour les frères, comme le résume en 2007 un documentaire de France 3 Méditerranée, Les Parrains de la Côte.
Protégés, intouchables, les Guérini peuvent racketter et trafiquer en toute impunité. Les prostituées se comptent par milliers. Le clan Guérini approvisionne près de 250 établissements en France et en Afrique du Nord. Les trafiquants au genre rapportent des fortunes. La contrebande de cigarettes donne lieu à des affaires mémorables, comme l'arraisonnement du Combinati, un cargo bourré de cigarettes américaines dont la cargaison disparaît dans la nature. Les truands osent tout. Toutes les affaires criminelles importantes de cette époque gravitent autour du clan Guérini, eh oui. Sauf que, malin, Antoine et Mémé n'y sont jamais directement impliqués. Au début des années 60, les deux hommes sont à leur apogée.
Voilà donc l'univers de l'enfance et de l'adolescence du Belge. Une famille dans laquelle la truanderie fait office d'ascenseur social, dans une ville minée par la corruption, où des emplois municipaux sont occupés par des braqueurs, des proxénètes et des trafiquants. Pas étonnant dans ces conditions qu'à 16 ans, le jeune Francis tombe pour un vol à la roulotte, puis à 19 pour proxénétisme. Mais que voulez-vous, pense Simone, la sœur cadette. Francis est un beau gosse, aux épaules larges et rassurantes, et ses conquêtes insistent presque pour tapiner. Et puis, en parlant de celle qui était sa belle-sœur, elle dit « Elle adorait Francis. Cette gagneuse n'a pas ménagé ses efforts pour l'aider dans son ascension au sein du milieu. Bon, je ne dis pas qu'elle est responsable du proxénétisme de Francis, mais qu'elle y a beaucoup contribué. » Reste que Sylvie, la seule enfant du Belge, a une toute autre vision des choses. Sa mère, 10 ans après de Francis, n'y a connu que des coups, des désillusions et des souffrances. Bref, à 19 ans, le Belge apprend vite la vie de tolard, c'est son premier passage au Baumettes. Bon, rien que de très logique finalement pour un garçon sorti de la fabrique du voyou qu'est la Belle de Mai. D'ailleurs, arrêtons-nous un instant sur ce quartier et ses figures. Parmi elles, Antoine Cossu, dit Tony Languille. Ce sont les flics qui ont trouvé ce surnom pittoresque, ne comptant plus le nombre de fois où le nerf humain est passé entre les mailles du filet. Un sacré personnage, Tony Languille. Plus sympathique que le Belge d'ailleurs. Il n'a jamais eu que deux spécialités dans sa vie de truand. Le braquage et l'évasion. Le proxénétisme, la drogue, le pouvoir, c'était pas son truc. En tout cas, c'est cet homme-là qui permet aux Belges de prendre du galon, comme il le raconte en 2021 à Vice TV France.
Le cousin de Francis, il avait son cousin Germain, il travaillait un peu avec moi, tu vois, pour préparer les coups. Et il m'a dit, putain, tu sais, mon cousin Francis, il en veut, il en veut.
Il a la dalle.
Ouais. J'ai dit, ben ma femme verra bien s'il en veut, tu vois. Et voilà, donc Francis, il me dit, ouais, Tony, moi aussi, je veux venir. Hein. J'étais sur une belle affaire sur les quais. Je me rappelle à l'époque, c'était toute la paye des dockers qui arrivait sur le quai de Marseille. Et le mec, dans sa camionnette, il portait tous les sous. On serre le mec, entre le bras, on y prend son sac, là. Francis, quand il a vu ça la première fois, il a dit, ah, putain,
bouge plus.
C'est fini, je veux que ça. Il a pris le goût de suite.
Pour la petite histoire, Tony Languille sera pendant quelques années l'époux de Simone, donc le beau-frère du Belge. Le monde est petit, et Marseille plus encore. En cette fin des années 60, la ville est toujours tenue par les frères Guérini. Barthélemy dit Mémé et Antoine dit Antoine. Ils se sont embourgeoisés, regrettons, dans le milieu. Les Guérini empochent des millions chaque année avec la French Connection. 20 tonnes d'héroïne pure à 98% raffinées à Marseille partent chaque jour aux États-Unis. Et, bien installés sur leur trône, les Guérini fricotent avec tous les pouvoirs. Gaston Defer, l'ex-copain de la Résistance, devenu maire, la CIA, pour briser la grève des dockers, la mafia américaine même. On raconte aussi qu'un homme de main des Guérini ne serait pas étranger à la mort de Kennedy. Mais en juin 67, alors qu'Antoine fait le plein de sa Mercedes avenue Saint-Julien, dans le centre de Marseille, un homme casqué descend de l'arrière d'une moto, s'avance calmement vers lui, tire 10 balles de Colt 45 à bout portant, ne lui laissant aucune chance. Puis il repart vers la moto, s'assoit, et le pilote met les gaz, simple comme bonjour. D'ailleurs, les deux hommes ne seront jamais retrouvés. Mais tout Marseille chuchote un nom. Zampa, Gaëtan Zampa. C'est lui qui aurait commandité le meurtre de l'aîné des Guérini. Et c'est ainsi que ce Zampa entame son ascension à coups de flingue. Et Francis le Belge grimpe lui aussi d'un cran. Il fait son entrée dans le grand monde quand la police l'enregistre au fichier du grand banditisme numéro 68-913, l'équivalent de l'ordre national du mérite pour les truands. Zampa et le Belge ont 13 ans d'écart, mais se connaissent plutôt bien. Ils se sont rencontrés à Paris, aux Trois Canards, à un bar de Pigalle. L'endroit est aux voyous ce que le Café de Flore est aux intellectuels. Au 48, rue de la Rochefoucauld, on ne croise que des Marseillais, ou presque. Et c'est un passage obligé quand on vient de la cité phocéenne. On monte à Paname pour faire un stage de banditisme, en quelque sorte. Aux Trois Canards, on apprend ou on peaufine, raquette, proxénétisme. Les récalcitrants à l'extorsion sont travaillés à la médiévale, pour reprendre l'expression du journaliste Jérôme Pirat. Bref, bien que le nom prête à sourire, les Trois Canards ne constituent pas un lieu d'échange courtois où l'on parlerait à la Audiard avec l'accent de Pagnol. Et c'est donc là que Zampa et Francis le Belge sympathisent. Et de retour à Marseille, les deux cohabitent. Après la mort d'Antoine Guérini, Zampa prend le pouvoir et devient le parrain. Le Belge, lui, prend des parts dans la French Connection. Et les deux voyous semblent vivre une parfaite vie. Deux voyous, chacun à sa place. Principe cardinal dans le milieu. Oui, jusqu'au 29 février 1972.
Marseille, le Vieux-Port, le service des douanes. C'est ici qu'hier, durant toute la journée, on a fouillé le caprice des temps et que l'on a découvert 425 kilos d'héroïne pure, la plus grosse saisie d'héroïne jamais réalisée au monde.
Le caprice des temps était en principe destiné à la pêche aux crevettes. Le propriétaire du caprice des temps, un contrebandier notoire, et ses 6 hommes d'équipage sont interrogés par le SRPJ de Marseille. Avec cette prise, certains gros bonnets de la drogue vont peut-être enfin avoir un visage.
La voyoucratie marseillaise, elle, sait qui est le gros bonnet aux 425 kilos de blanche planqué dans le caprice des temps. C'est le Belge, qui est persuadé que Zampa l'a donné aux douanes pour mettre sur la touche le possible rival qu'il représente. sans compter que le même Zampa aurait auprès de lui une ardoise jamais réglée de plusieurs dizaines de milliers de francs. Alors, c'est la guerre. En septembre 72, trois hommes de la bande de la Belle Nommée, la bande du Belge, sont criblés de balles. La rumeur lâche un nom. Le flingueur est Joe Lomini, le Toreador, un lieutenant de Zampa, lequel meurt quelques mois plus tôt dans la tuerie du Tanagra, avec laquelle nous avons débuté ce récit. Parce que c'est comme ça dans le milieu. Chaque cadavre en amène un autre. Francis se venge, alors Zampa se venge, et Francis se venge à nouveau. La durée de vie d'un truand est rarement longue. Comme l'écrit dans son livre Sylvie Borel, la fille du Belge. Les mères pleurent leurs enfants, les enfants pleurent leurs pères, des familles entières sont plongées dans le malheur. Le Belge échappe à deux tentatives de meurtre, à Paris, parce qu'il était avec sa femme et sa fille. Oui, celle-ci précise. Mon père protège sa vie en plaçant mon corps devant le sien et peut sortir rassuré. Je suis, selon lui, son assurance-vie. Parce qu'il sait pertinemment que la loi du milieu interdit de toucher aux femmes et surtout aux enfants. Mais celle qui va offrir la meilleure protection aux Belges, c'est la justice finalement. Il est d'abord condamné à 3 ans de prison pour proxénétisme aggravé en 1974 et 12 ans dans l'affaire du caprice des temps et des 425 kilos d'héroïne. Le voilà donc hors circuit. Zampa, lui, s'offre des voitures de sport, des chemises siglées à ses initiales, se promène en manteau de fourrure, de loup et continue à remplir les cimetières. Flics et truands l'imaginent derrière chaque mauvais coup. Le casse du siècle d'Albert Spaggeri à la Société Générale, à Nice, en 76. La tuerie du bar du téléphone, 10 morts à Marseille, en 78. L'assassinat du juge Michel, en 81. Trois histoires que nous avons déjà racontées dans Affaires Sensibles, à part tous ces morts qui sont autant de cibles. Reste que, toujours soupçonné, jamais Zampa ne sera arrêté ou inquiété. Alors à Marseille, il mène la grande vie. Et pendant ce temps, à Poissy, dans la cellule de sa prison, le Belge ronge son frein.
On est entré dans la banque.
9h, 5 minutes.
Attention, c'est un hold-up.
9h, 6 minutes.
Rentre à terre et fermez-la.
9h, 6 minutes.
On entend voler les mouches. Et je vois. Vers le guichet.
9h, 7 minutes.
La combinaison du cop, vite.
9h, 8 minutes.
Je vous jure, je la connais pas.
9h, 8 minutes.
Dédé sort son attirail. Et je vois. De céder.
9h, 9 minutes.
Dédé tourne la poignée.
9h, 10 minutes.
Ça fait un boucan du diable.
9h, 10 minutes.
Emballez les gars, on se tire vite.
Et je vois. Ma mort, sourire. Et je la vois. M'emmener.
Aujourd'hui, Francis le Belge.
France Inter, Affaires Sensibles.
28 juin 1984. Il y a bien quelques nuages au-dessus de la région parisienne, mais Francis Vanderberg ne voit que le soleil, son premier soleil d'homme libre. libéré pour bonne conduite après 11 ans de prison, il sourit en quittant la centrale de Poissy. De sa détention, c'est qu'il a beaucoup lu, philosophie et nouveaux romans, qu'il travaillait comme comptable également. La suite pourrait être une belle histoire de droit chemin et de rédemption. Que nenni ! Parce que dès sa sortie de prison, c'est le retour de la foire aux cadavres. Et ce n'est sans doute pas une coïncidence. Pourtant, Tanis Ampa n'est plus dans le paysage. Arrêté quelques mois plus tôt pour des délits financiers, comme Al Capone, il se suicide dans sa cellule des Baumettes. Un meurtre déguisé ? Non, plutôt un vrai suicide. Sampa avait déjà fait deux tentatives et il était sujet à des crises de folie. Mais la mort de son ex-ami devenu ennemi ne calme pas le Belge. Au contraire. En novembre 2017, le commissaire Jean-Michel Mimran en témoigne dans le journal La Provence.
Zampa venait de tomber, ce qui avait provoqué une fracture terrible dans le milieu. Une redistribution de son empire, avec des affrontements très violents entre son demi-frère qui tentait de sauvegarder l'héritage et le Belge notamment. On est monté à 50 morts en une année à Marseille. À l'époque, la question entre les membres des clans était simple. Tuer mon ami ou non ? Et si le mec hésitait ne serait-ce qu'un peu, c'était comme s'il passait chez l'ennemi. Quelques jours après, une moto se stabilisait à son niveau. Et il se faisait descendre.
Les derniers zampistes doivent courber l'échine. Et selon le journaliste François Caviglioli dans le Nouvel Observateur, le message du Belge à leur attention est clair. Il n'y a pas d'arrangement possible avec vous. Vous avez travaillé avec un enculé. Maintenant, vos affaires sont à moi. Des bars, des restaurants, des boîtes de nuit tombent alors dans son escarcelle. Et il se voit en Francis Ier, roi du crime de Marseille, montant sur le trône laissé vacant par Zampa. Mais pour être le parrain, celui qu'on ne conteste pas, encore faut-il être là. Or, à sa sortie de prison, le Belge est persona non grata à Marseille. Comme à Lyon d'ailleurs, et à Paris. Interdiction de séjour, dit la justice. Alors oui, il est possible de commanditer des meurtres, mais il est impossible d'asseoir une autorité quand on est si souvent absent. Francis Van Berberg, le gamin de la Belle de Mai, ne sera donc jamais le parrain de Marseille. D'autant qu'en 85, un an après sa sortie de prison, il est à nouveau dans le viseur de la justice. Pour comprendre cette affaire précise, il faut faire un détour par la Suisse, le 11 novembre 85. Le décor, un chalet tranquille dans le village des Pacots, au-dessus de Fribourg. La suite est racontée par les journalistes de la RTS, la radio-télévision suisse.
Et donc, vous l'avez entendu, dans le chalet des Pacots, dans un chalet des Pacots que l'on a découvert lundi soir, un laboratoire clandestin et 10 kilos d'héroïne pure. Et c'est la police fribourgeoise, côté suisse, qui a donné l'assaut à ce chalet. Une opération menée par André Piller, le juge d'instruction de la Sarine, qu'a interrogé notre correspondant Serge Herzog.
Je crois que c'est la raison qui a amené ces personnes dans notre région, c'est le calme des montagnes fribourgeoises. Ces auteurs ont eu dans un premier temps l'intention d'opérer cette transformation dans leur pays, en France. Et il semble que le terrain leur était trop chaud pour eux. Et ils ont préféré effectivement un endroit plus calme.
Parmi les hommes arrêtés, un Marseillais de 40 ans, François Scapula. Au sein de la French Connection, celui-là est un sérieux client, une pointure, grand chimiste de son état, raffineur d'exception. Le sorcier de la French était capable de purifier la poudre à 97%, écrit le journaliste Bruno Aubry. Alors que les chimistes du CNRS n'arrivaient pas à faire mieux que 67%. C'est comme pour la bouillabaisse, expliquait simplement Scapula. Il faut avoir le truc. Devant les enquêteurs, le truand déballe tout. Il était surnommé le Brun, dans le milieu, il devient Scapula Valence. Et il donne les assassins du juge Michel, innocentant, réhabilitation posthume, un certain Gaëtan Zampa. Et au passage, il balance le Belge concernant un colis de 20 kilos de blanche revendu à la mafia américaine. Au moins, en 22 ans de criminalité, dont presque la moitié passée en prison, le Belge aura appris une chose, la prudence. Le petit voyou grande gueule a compris que la discrétion était aussi, dans son milieu, une garantie. Alors qu'il est recherché par la police à cause des accusations de Scapula Valence, il s'entoure donc de gardes du corps et surtout de précautions. Ses coups de fil, depuis les cabines publiques. Ses rendez-vous, dans les boîtes de nuit qu'il possède. arrivant au dernier moment et repartant vite. Ses domiciles, toujours sous un faux nom. C'est qu'il n'est plus tout seul, le Belge. Il a une nouvelle amoureuse, une serveuse rencontrée dans un bar parisien. C'est avec elle qu'il s'installe à Bruxelles, sous le nom de Primo Ulleri. Mais la cavale ne dure qu'un temps. Le 30 mars 88, la police belge l'arrête et le remet aux bons soins d'un juge marseillais, saisi après la dénonciation de Scapula Valence, et retour à la casse-prison. Alors, dehors, ses rivaux se sentent pousser des ailes et abattent José, le frère du Belge. Ses troupes ripostent, bien sûr. C'est l'époque de la guerre des boîtes, à Marseille et à Aix, pour le contrôle des établissements de nuit. Les règlements de compte partent dans tous les sens, entre les bandes de Francis le Belge, Raymond le Chinois ou Joël le Libanais. Après 4 ans dans son habituelle cellule VIP des Baumettes et 20 demandes jusque-là toutes refusées en 1992, demande de liberté, Francis Van Nerberg est remis en liberté, pour le coup, contre une caution de 225 000 euros. On chuchote dans Marseille que c'est le footballeur de l'OM Bernard Pardo qui l'a versé. Un magistrat, cité dans le livre « Les parrains du siècle », réagit. « Ce soir, le bruit des bouchons de champagne couvrira le bruit des balles. Mais vous verrez qu'un jour prochain, le bruit des balles couvrira celui des bouchons de champagne. » Et un an plus tard, en novembre 93, le Belge est arrêté, toujours et encore.
« L'intermède n'a été que de courte durée pour Francis Van Wenberg, dit le Belge, interpellé ce matin à Paris, un an presque jour pour jour, après avoir été libéré de la prison des Baumettes. C'est un véritable coup de pied dans la fourmilière qu'ont donné les policiers, cueillant plusieurs dizaines de personnes dans des grandes villes, à Marseille notamment, où l'une des figures du milieu local, Jackie Humbert, dit le Mat, ce soir en garde à vue. On le considère également comme un proche de Francis Van Wenberg. Le nom du Belge n'a cessé d'apparaître depuis plus de 20 ans dans la sanglante saga du grand banditisme marseillais. Mais aujourd'hui, les policiers épluchent les comptes du Belge et de ses amis. Ils ont aussi beaucoup de questions à leur poser sur une série de règlements de comptes marseillais. Et l'on parle même d'un trafic d'uranium avec les pays de l'Est. Reste à savoir si les enquêteurs disposent cette fois de charges suffisantes.
Des charges suffisantes ? Visiblement pas, puisque Francis le Belge sort un an plus tard des Baumettes, où il était certes privé de liberté, mais avec des co-détenus et des gardiens à sa botte. En cette même année 94, il est innocenté dans l'affaire balancée par François Scapula, les 20 kilos d'héroïne. La Cour européenne des droits de l'homme condamnera même la France à lui verser 13 000 euros pour abus de détention provisoire. Facétieux, le Belge veut verser la somme à l'abbé Pierre, qui refuse. Puis à l'Observatoire international des prisons, qui aurait accepté. Oui, il jubile le Francis, et rejoue l'homme accablé par la police, la justice, Scapula. Comme il l'écrivait quelques mois avant sa sortie de prison. Depuis plusieurs années, j'ai constaté que l'on associait mon nom à toutes les légendes de notre bonne cité phocéenne. Et lorsque je ne pouvais pas y être, subrepticement, je me retrouvais là, planté au centre du festin, par la seule volonté de rumination divine d'éternels détracteurs à la conscience dépravée, confondant l'imagination avec le réel. C'est plus ampoulé que de dire je suis victime d'un complot, mais on comprend l'idée. Le Belge se la joue littérateur. Mais sans doute en a-t-il assez de ses allers-retours en prison. Il a presque 50 ans, porte encore beau, mais il sent que le moment de prendre un peu de recul est arrivé. La French Connection est morte, trop d'amis sont partis au cimetière, et des plus crèvent la faim que lui veulent une part du gâteau. En vérité, le milieu est en train de changer. Alors, Francis l'Ancien laisse Marseille derrière lui, direction Paris, où il achète cash un appartement tout proche des Champs-Élysées. Sa sœur Simone décrit ainsi l'endroit. L'appartement était surdimensionné et décoré luxueusement, mais de très mauvais goût. Ça ressemblait à un intérieur saoudien, vous savez, avec des œuvres d'art dans tous les coins. C'était un vrai étalage de richesse. Monsieur Van Wenberg s'installe donc en bourgeois renté du crime. Et en ce milieu des années 90, il y a un business qui rapporte gros en billets et coûte peu en années de prison, les machines à sous. Exemple, dans ce reportage de France 2 à l'automne 99, avec une borne de jeux vidéo.
Ça commence comme cela.
Bonjour.
On pénètre dans un bar, comme il en existe des centaines à Paris. Juste en face du comptoir, un vidéo poker. L'appareil cette fois est trafiqué, mais avec une petite manipulation, un banal jeu d'adresse se transforme en jeu de hasard. Des machines à sous comme celle-là, il y en aurait près de 500 dans l'agglomération parisienne, 6000 au total dans toute la France. Et une seule de ces baraques, comme on les appelle dans le milieu, peut rapporter à celui qui l'a placée jusqu'à 50 000 francs par mois. Et dans le milieu, justement, le contrôle des machines à sous a déclenché une vraie guerre. À Marseille, depuis près de 2 ans, une cinquantaine de truands ont fait les frais de règlement de compte sanglants. Une guerre d'autant plus violente que le milieu marseillais n'a plus de vrais parrains, seulement des petits caïds.
Des machines à sous, ces années-là, on en trouve partout. Et on vient d'entendre, elles génèrent beaucoup d'argent. Le Belge a bien intégré la combine pour blanchir autant de liquide. Il rachète des tickets gagnants de PMU ou de loto, lâchant au passage un supplément aux vendeurs, tout de même, et encaisse le plus légalement du monde les gains. En 99, il aurait, dit-on, déclaré 1 million de francs de revenus aux impôts. Mais voilà, autour de lui s'inflingue à tout va. À Marseille ou à Paris, de nouvelles équipes se disputent le pouvoir. Et puis il y a la drogue, le shit et la cocaïne qui arrivent. Même vieillissant, le Belge gêne encore un peu. On dit qu'il est l'un des juges de paix du milieu, un arbitre chargé de trancher dans les embrouilles entre truands, qui évidemment ne peuvent pas saisir la justice, la vraie. Bref, entre les machines à sous et les machines à sion, les querelles, les grands nettoyages générationnels, Francis le Belge a forcément fâché quelqu'un. Et il va vite s'en apercevoir. Nous sommes le 27 septembre 2000, il est 19h sur France Inter.
Bonsoir. Mort d'un truand, Francis Van Verberg, dit Francis le Belge, a été abattu en plein Paris cet après-midi. L'ancien parrain est tombé sous les balles d'un tueur. Il avait 54 ans.
France Inter.
Dans ce métier, la vie s'arrête souvent sur la trajectoire d'une balle. Les truands meurent rarement dans leur lit. Francis le Belge n'a pas échappé à la règle. L'exécution a eu lieu dans un PMU de la rue d'Artois, à Paris, 8e arrondissement, où nous attend Angélique Moin.
Vers 15h30, cet après-midi, deux hommes font irruption dans la salle où se trouvent une vingtaine de clients. Le geste est professionnel, une dizaine de balles sont tirées du 11-43. C'est le plus gros calibre disponible en armes de poing. Un client s'écroule. À leur arrivée, les policiers, puis le procureur Blanchot, chargé de l'enquête, identifient l'ancien parrain marseillais.
Sur place, les enquêteurs comptent 7 balles dans le corps et 2 dans la tête. Le contenu d'un chargeur méthodiquement vidé par un homme casqué qui s'est avancé vers le fond de la salle, là où était attablé le Belge. Un complice, casqué lui aussi, surveillait l'entrée. Selon les versions, le truand de la belle nommée n'a pas eu le temps d'esquisser le moindre geste. Et de toute façon, il n'était pas armé. Sa sœur, Simone, retient une version qui colle mieux à la légende. Il s'est levé avec panache, égal à sa réputation, sachant que le tueur venait pour lui. Mon frère s'est présenté les bras en croix pour épargner les innocents en disant « Je suis là ». Quoi qu'il en soit, avec ou sans panache, la mort du Belge signe la fin d'une époque. Pas celle d'un milieu qui aurait été chevaleresque, code d'honneur, cheville au corps, remplacé par les sanguinaires sans foi ni loi. Ils sont tous sans foi ni loi, ni respect de la vie. Mais celle d'une mainmise des corsos marseillais sur les jeux, les stupes, les prostituées remplacées par des clans gitans ou maghrébins. Ce n'était pas mieux avant, c'était aussi sanglant. Tout juste y avait-il moins qu'aujourd'hui de balles perdues et de victimes innocentes. Et même si elle est avant tout tragique, l'histoire de Francis le Belge appartient à un certain folklore criminel. Presque comme si le sang versé était moins rouge. Regarde-t-on aujourd'hui de la même façon le parcours de l'un des grands truands de Marseille, Farid Berama, dit le rôtisseur? Francis Van Verberg n'a jamais été le parrain de Marseille, donc. Mais il laisse, lui, le gamin de la belle de mai, un surnom dans les livres d'histoire criminelle. La preuve aujourd'hui, on parle du Belge. Aujourd'hui, Francis le Belge dans Affaires Sensibles, notre invité Hervé Lafranque. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un ancien enquêteur, vous avez travaillé à Nice et à Marseille, à l'Antigang notamment. Dans les années 90 et en 2000, vous étiez le patron de l'OCRB, l'Office Central pour la Répression du Banditisme. Et on va dire que Francis le Belge était l'un de vos clients. Alors, au-delà de Francis le Belge, sur lequel on va revenir bien sûr, qui sont ces gens, ces gangsters que le cinéma, la littérature met en œuvre, ces gens qui sont quand même à rebours de la civilisation, sans respect de la vie, qui parfois torturent, qui sont mégalos, narcissiques, qui sont obsédés par le pouvoir et la puissance. Alors c'est un peu schématique, hein. Vous, vous les connaissez, vous les avez rencontrés, qui sont-ils ces gens-là?
Bah assez curieusement, ce sont des gens qui auraient pu être quelqu'un d'autre, auraient pu faire autre chose et puis réussir ailleurs. Ouais. Ce sont des gens qui sont la plupart du temps intelligents. Alors c'est une intelligence qui est dirigée vers de mauvaises choses, bien entendu, mais des gens qui sortent du commun. Et effectivement, je les ai rencontrés dans les périodes de garde à vue où on n'a pas grand-chose à se dire. Enfin, eux surtout, d'ailleurs, ils disent absolument rien. Et on essayait, ou j'essayais, d'en savoir un petit peu plus sur eux et puis de tisser un fil qui était un peu différent, quoi.
Et bon. Il vous est arrivé d'avoir des rapports, non pas amicaux, je n'irai pas jusque-là, hein, mais parfois un peu conviviaux pour leur retirer des infos. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui... Encore une fois, je ne parle surtout pas de complicité, mais d'un rapport qui peut s'établir avec certains, et puis ça peut être bénéfique pour l'enquête.
Bah, oui, c'est arrivé à plusieurs reprises. D'ailleurs, quand on est relativement à l'écoute, ou voire même sympathique avec eux, en tentant d'oublier ce qu'ils ont pu faire... Mmh. Ça se passe beaucoup mieux et on peut apprendre un certain nombre de choses. Donc la convivialité, elle se passe autour d'une pizza, autour d'un moment où on discute de tout et de rien concernant l'affaire.
Comme dans les films, quoi.
Un peu comme, oh oui, enfin, c'est pas tout à fait comme dans les films, mais enfin, c'est un temps où on peut échanger des choses avec eux. C'est rarement intéressant pour l'enquête. C'est plus intéressant sur ce qu'ils étaient, pourquoi ils ont versé là-dedans, et puis parfois ça peut être intéressant sur le tissu relationnel qu'ils ont.
Alors le Belge, t'es l'un de vos clients, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler. Parlez-nous de lui. Vous l'avez connu. Dites-moi un peu, quel genre de type il était.
Moi, je l'ai... Alors, assez curieusement, vous avez cité les postes que j'ai occupés, je ne l'ai jamais rencontré physiquement.
Ah, d'accord.
Jamais rencontré pour une raison très simple, c'est que soit il était en prison, soit quand j'étais à Marseille, il était à Paris, et quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé à Paris en janvier 2000, il est décédé assez vite, il a été tué assez vite.
Et qu'en disent vos collègues?
J'ai surtout travaillé, après, avant de parler des collègues, mais surtout travaillé sur les gens qui étaient très proches de lui.
D'accord.
Et qui donnaient une image, je pense, assez réelle de ce qu'il était et de ce qu'il faisait ou faisait pas. Et vous avez parlé tout à l'heure de Tony Languille, Antoine Cossu, qui était très proche à une époque de lui. J'ai beaucoup travaillé sur lui et concouru à ce qu'il passe un certain temps derrière les barreaux. Donc c'était un homme qui est le Belge, qui apparaissait, comme vous l'avez décrit au départ, un beau mec, c'est-à-dire quelqu'un qui est grand, élancé, plutôt sympathique de prime abord et chaleureux, intelligent. Et qui en imposait à la fois naturellement et puis par la réflexion qu'il avait. C'était pas que du verbiage. Il avait aussi une intelligence certaine, mais une intelligence certaine mais relative aussi, parce que quand tous les types sur lesquels on pouvait travailler à l'époque et que l'on qualifiait, que les journalistes appelaient la plupart du temps des parrains, faisaient peu ou pas de prison.
Ouais.
Et lui, il a passé la moitié de sa vie. Il en a fait énormément. Donc, il était certainement mal conseillé, si je puis le dire ainsi, ou beaucoup trop sûr de sa force,
ouais.
ce qui l'a conduit à faire des bêtises.
Qu'est-ce qu'on peut appeler un parrain finalement ?
En termes policiers, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour le public, un parrain, c'est quelqu'un qui est reconnu, qui est installé, qui a une équipe de voyous autour de lui et qui lesquels voyous autour de lui le craignent, le respectent, jusqu'au moment où ça évolue. Mais c'est des gens qui sont qui mettent plus les doigts dans le cambouis, ou pas de la même façon, c'est-à-dire qu'ils vont pas
Ils vont pas sur le terrain, c'est ça?
Ils y vont moins, ou en tout cas ils font moins d'affaires parce qu'ils en ont moins besoin, et puis ils prennent plus beaucoup de précautions pour éviter qu'on remonte à eux. Vous avez parlé tout à l'heure d'enquête financière notamment. C'est un des biais que l'on pouvait utiliser, mais si on n'arrive pas à remonter vers eux, c'est plus intelligent.
On rappelle qu'Al Capone a été condamné pour fraude fiscale.
Oui, tout à fait.
Le milieu français de ces années-là, j'imagine, n'est pas monolithique. Hein. Pour donner une image, est-ce que c'est un continent avec un seul chef ou un archipel avec une multitude de chefs?
Alors, c'est plutôt un archipel, si je reprends votre image. C'est-à-dire qu'il y a énormément, il faut quand même pas exagérer, mais enfin, il y a plusieurs dizaines d'équipes qui existent. et avec à leur tête chacun un personnage particulier. Donc il n'y a pas un patron, un parrain, un super parrain qui dirige tout ça. Il y a des liens entre eux, la plupart du temps, ou des batailles, vous en avez parlé aussi,
bah oui.
mais ils sont quand même essaimés. Ça tient à leur historique aussi, pour avoir une équipe qui vous suit dans ces affaires-là, il faut bien les connaître. Il faut avoir, la plupart du temps, ce sont des gens qui ont vécu ensemble, ou qui ont plus exactement, qui ont été élevés dans un endroit identique,
ouais.
Et qui sont très proches les uns des autres, ou alors qui se rencontrent à l'université, vous avez parlé d'école tout à l'heure, mais il y en a certains qui passent à l'université en prison, quoi, voilà.
L'université du crime aussi, la prison.
Exactement.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Hervé Lafranc, je rappelle que vous êtes un ancien policier, notamment vous avez été le patron de l'OCRB. Parmi le folklore attaché à la voyoucratie de ces années-là, il y a cette idée d'un code d'honneur. On ne touche pas aux femmes et aux enfants, on ne cherche pas le bain de sang quand un flic vous arrête. Réalité ou légende urbaine ?
Non, légende urbaine. Alors, pour les femmes, elles étaient rarement avec... c'est un métier d'homme, si je puis le dire ainsi.
Là, vous pouvez.
Oui, c'est quand même pas... Là, pour le coup, les femmes étaient très, très, très peu présentes. Et quand elles sont présentes, malheureusement pour elles, elles sont assassinées comme leurs compagnons. Bon, on a plusieurs... Enfin, j'ai plusieurs exemples en tête. Après, le code d'honneur, quand j'entends dire qu'il mettait sa compagne devant lui pour le protéger, je rêve. Enfin, ça l'aurait absolument pas protégé s'il avait eu en face de lui des gens qui étaient déterminés. Alors, code d'honneur, je sais pas trop ce que ça signifie. C'est un peu un mythe que l'on trimballe comme ça, là.
C'est comme l'honorable société pour la mafia, c'est pareil.
Voilà, c'est à peu près ça.
On se demande ce qu'est l'honorable.
C'est à peu près ça.
Sait-on aujourd'hui par qui et pourquoi le Belge a été abattu, finalement? On a évoqué, là, dans le récit, un conflit portant sur les machines à sous, une vengeance venant des rescapés du clan Zampa, voire un différend avec le gang de la Brise de Mer. En Corse, qu'est-ce qu'on sait là-dessus ?
Bah écoutez, 23 ans après, officiellement, on sait pas grand-chose. En tout cas, énormément de travail a été fait par la brigade criminelle de Paris, qui n'a pas l'habitude de laisser de côté voire même des bribes d'informations ou quoi que ce soit. Tout a été, si je puis dire, ainsi ratissé pour essayer d'arriver au bout de ce dossier, mais malheureusement, à ma connaissance, en tout cas, il est toujours pas sorti. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer? Le nœud du sujet, en tout cas, ce qui rapporte le plus à ce moment-là, tant que la drogue n'est pas encore au niveau qu'on connaît aujourd'hui, ce sont les machines à sous.
Oui.
Et si je vous disais que j'avais pas travaillé directement sur lui, on a travaillé énormément, puisque j'étais patron de la brigade anti-gang à Marseille avant, on travaillait énormément sur des gens qui étaient manifestement en proximité, ou en tout cas qui était pas très loin de lui. Je peux le dire comme ça, puisque ça a été démontré, je peux pas aller beaucoup plus loin. Mais il y avait des équipes qui travaillaient, ou en tout cas qui ramassaient, qui récoltaient, et ils devaient récupérer des fonds ici ou là-dessus. Ils gênaient, manifestement, enfin j'enfonce une porte ouverte en disant ça, il était plus sur Marseille, et il est vraisemblable que c'est des gens qui ont voulu prendre sa place et qui l'ont supprimé. En tout cas, qui l'ont fait supprimer, parce que c'est pas les acteurs directs qui sont allés le supprimer. Ils ont délégué
des sicaires.
Voilà, exactement, qui l'ont abattu, et ça a été dans ce domaine-là plutôt bien fait proprement par des professionnels, des gens qui n'ont pas laissé de traces et qui sont repartis aussi vite qu'ils étaient arrivés.
Vous êtes à la retraite maintenant de votre vie de policier. Oui. Vous avez pris votre retraite quand ? Alors, autrement dit, vous avez été policier jusqu'à quelle année ?
Dans les années, je suis policier jusqu'en 2007.
Bien. Alors, ce milieu des années 70 et 80, celui auquel appartenait le Belge, n'est plus qu'un souvenir. Quelle était la mutation ? Le milieu est devenu quoi après Francis le Belge et toute cette bande-là ?
Bah, le milieu existe toujours, mais c'est plus du tout le même. Vous avez parlé du fichier du grand banditisme. Aujourd'hui, le fichier du grand banditisme, s'il existe toujours, n'est plus constitué des mêmes types de personnages. Il est constitué de gens qui sont montés beaucoup plus vite dans leur hiérarchie locale. Si on regardait ça d'un petit peu haut, on verrait que des équipes qui sont plutôt...
Plus jeunes alors déjà, d'emblée.
Voilà, exactement. Beaucoup, beaucoup plus jeunes, mais qui sont beaucoup plus limités aussi en termes géographiques ou en termes d'action. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas riches d'ailleurs, mais ça veut dire qu'ils sont quand même beaucoup plus limités. Et les antagonismes directs, leur prud'homme, si vous voulez. Ça a toujours été, ça a toujours été le 1143. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Alors, on utilise moins le 1143, qui est pas pratique à manœuvrer. Il y a des choses beaucoup plus efficaces, mais c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup plus de. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus violent aujourd'hui qu'hier, parce qu'il y a des antagonismes manifestes, notamment sur le sujet de la drogue et des proximités géographiques qui font que ça saute.
Bien sûr. Donc ça, il y a un effet de loupe, quoi.
Exactement.
Et est-ce que vous pensez que l'assassinat de Francis Le Belge a marqué la fin d'une époque ?
Non. Je pense pas que ça ait marqué la fin d'une époque, parce qu'il ne représentait pas à cette époque-là, au moment où il est mort, en tout cas, quelque chose de... C'était pas par lui que passait beaucoup, tout ce qui pouvait passer.
Oui.
Le bien et le mal, ne passaient plus par lui. Et il est mort à un moment où il gênait parce qu'il avait son nom. Il avait encore une équipe.
Oui.
Ça, c'est... D'ailleurs, si vous regardez bien l'histoire après, il y a deux ans, dans les deux ans qui ont suivi, il y a eu des règlements de compte sur des gens qui étaient ses proches.
En son nom, oui. Et parce qu'ils étaient proches aussi.
Ouais,
parce qu'ils étaient proches, d'accord.
Parce qu'ils étaient proches.
Donc il fallait nettoyer toute la...
Ben, manifestement, puisqu'il y a encore 3 ou 4 personnes qui sont décédées par la suite. Je crois que dans les années 2002, 2003, ça a poursuivi. Donc il représentait quelque chose, mais pas, on ne peut pas dire qu'il boucle une époque. Ce qui a bouclé l'époque, cette époque-là, c'est plutôt le fait que les machines à sous soient peu à peu remplacées par d'autres choses. On joue maintenant depuis son téléphone portable sur ce que l'on veut et comment on veut. Il n'y a plus besoin d'aller dans un bar.
Est-ce qu'à votre avis, le travail de policier aujourd'hui, donc anti-drogue, anti-gang, est devenu plus difficile en vertu des changements qui se sont opérés ? Est-ce que c'est plus dur qu'avant ?
Je pense que chaque époque a ses difficultés et a ses grandes difficultés. Et aujourd'hui, je loue mes collègues d'arriver à travailler intelligemment et fortement sur ces gens-là, parce que c'est beaucoup plus compliqué vraisemblablement d'arriver à les pénétrer. Et d'arriver à rentrer, à comprendre et à rentrer, même techniquement d'ailleurs, dans ces équipes-là. Mais globalement, on a toujours eu des difficultés énormes pour bosser sur eux. Et ça a toujours été peu simple, y compris pour les interpeller.
Qu'est-ce qui vous a passionné, vous, dans ce métier de policier ? Vous qui l'avez exercé quand même dans l'élite de la police, vous aviez un poste haut placé, donc intéressant, j'imagine, avec des hommes à mener. C'était quoi votre motivation ?
La motivation première, c'est une motivation qui est un petit peu plus philosophique. C'est-à-dire, il y a du droit, il y a un État, il y a une République, tout ça gêne.
Un État de droit, voilà.
Et je participe, autant que faire se peut, à le maintenir comme, non pas comme il est, mais en tout cas avec ses règles. Ensuite, ce qui est passionnant, c'est de travailler sur des gens qui sont intelligents, globalement, pas tous, mais qui sont intelligents, et arriver à les coincer. Donc c'est cet intérêt-là qui a fait le sel ou le poivre, je ne sais pas, mais qui a fait la force. Et sur le fond, en fait, là où on facilite les rapports avec eux, c'est justement parce qu'ils pensent être impossible à attraper, ils pensent qu'on est moins intelligent, moins fort qu'eux, et quand ils se font avoir, ils reconnaissent quelque part que ben, ils ont perdu. C'est pas pour autant qu'ils vont vous parler des affaires, mais il y a ce dialogue qui peut s'instaurer.
Ouais. Et là, ils vous font l'aveu que vous étiez meilleur qu'eux, vous avez gagné.
Alors, ils le font du bout des lèvres, mais oui.
Et les gosses jouent aux gendarmes, aux voleurs. Hein.
Tout à fait.
C'est pas pour rien. Merci, Hervé Lafranc.
Je vous en prie.
Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Francis Le Belge, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Sophia Lactib.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.